Asseyez-vous.
Vraiment, il faut être assis.
Il faut être assis.
Oui, bien sûr.
Ah bon,
on est ensemble.
Alors, s'il faut que je m'asseye, je m'assois. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci pour l'excellent repas. Enfin, pour ce qui était du salé. Hein. Je ne me fais aucun souci pour ce qui sera du sucré. Avant d'aborder les deux versets qui ont été mentionnés par M. Vang, je me suis dit que peut-être il était intéressant de se pencher sur certains récits bibliques qui, je pense, ne sont pas dénués d'une certaine ironie. Parce que je pense que s'il y a des humoristes aujourd'hui, il y en avait hier, et qu'on retrouve des relents d'humour dans les textes bibliques. Ainsi, lorsque l'on se penche sur la question du pouvoir politique et de sa relation avec les autorités religieuses, et lorsqu'on regarde le texte biblique, dans le fond, on est confronté avec une vision relativement négative et ironique du pouvoir politique. Je m'explique. Si on sort de la Torah, donc si on sort du Pentateuque, qui quand même décrit une situation du peuple d'Israël assez particulière et qui ne s'est pas retrouvé depuis lors, on est confronté avec le livre des juges. Si on regarde le livre des juges et si on le lit, si on arrive à le lire, parce que c'est un livre qui est dur, qui est lourd et qui est violent, et que l'on essaye d'en déduire un tout petit peu ce que devaient penser le ou les auteurs des pouvoirs politiques, on s'aperçoit que leur opinion n'était pas une opinion extrêmement favorable. Mais, si on regarde, si on considère les principaux juges ou ceux qui ont le plus marqué ce livre et donc son auteur ou ses auteurs, on s'aperçoit qu'il y a deux types de dirigeants. Il y a ceux qui, en dépit de certaines qualités ou en dépit de certains défauts, ont été pendant un certain temps les dirigeants du peuple d'Israël ou du moins de certaines tribus, mais qui sont qualifiés de façon relativement négative. Parmi eux, il y a Jephté qui était un chef de bande, qui fait un pari stupide, et puis il y a Samson qui est un lutteur solitaire. Et en dépit de l'image que l'on a ou que l'on peut avoir subjectivement de Samson, on s'aperçoit que la conséquence de leurs actes sont des conséquences, pour ainsi dire, insignifiantes quant à la vie du peuple d'Israël, du moins dans le long terme. Et donc l'auteur semble nous dire que si l'on a affaire à un voyou ou à un égoïste, eh bien mieux vaut ne pas lui donner le pouvoir. Et puis il y a d'autres dirigeants, j'en ai repris un seul à titre d'exemple, qui est Gédéon, qui est un homme qui doute de lui, ce qui n'est pas bon, pense-t-on, quand l'on est chef d'État. Et pourtant, Gédéon est peut-être le juge qui surnage un tout petit peu dans ce magma, d'une part, et d'autre part, il faut se replacer aussi dans les temps anciens, c'est un homme qui refuse le pouvoir héréditaire, qui refuse d'être roi et qui refuse que ses descendants le soient, en dépit de ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a donc cette double image, d'un côté négative, critique, et de l'autre côté positive, de deux types de chefs de bande, ou chefs d'État, ou chefs du moins politique pour certaines tribus du peuple d'Israël. Et puis on arrive à la fin de cette période des juges, et on arrive à un moment charnière où le peuple d'Israël, pendant la judicature de Samuel, du prophète Samuel, ou du juge Samuel, où le peuple d'Israël demande un roi pour être comme les autres. Parce qu'il se rend compte que dans la relation qu'il a avec les autres, il est peut-être bon que le peuple soit uni, d'une part, d'autre part, qu'il est une représentation unique vis-à-vis des autres. Et le texte biblique va nous montrer comment on choisit un roi. Et dans cette approche, il y a pour moi une très grande ironie. Vous connaissez certainement l'histoire. Samuel est donc approché pour désigner un roi. Alors d'abord, il le prend comme une critique envers lui-même, et Dieu lui dit, mais non, c'est pas toi qui le critique, c'est moi. Mais ça fait rien. On va leur choisir un roi. Et qui est ce roi? Ce sera Saül. Mais comment est-il choisi? Dieu lui dit, je te désignerai qui doit devenir le roi. Saül est parti avec son serviteur pour chercher des ânesses qu'il a perdues. Je rappelle que dans ce monde, le positif est masculin et le féminin l'est un peu moins. Déjà, l'âne n'est pas un animal qui a une très grande cote d'amour, mais l'ânesse alors encore moins. Et voici que cet homme qui est parti à l'aventure pour chercher des animaux qu'il a perdus, n'arrive pas à les retrouver. Et son serviteur lui dit, on va aller consulter le prophète, parce que peut-être lui nous dira où sont les ânesses. Et il dit, pourquoi pas? Et il va et il rencontre Samuel. Et Dieu fait comprendre à Samuel que c'est lui le futur roi. Samuel est quand même un peu étonné, pour deux raisons. La première, c'est que Saül fait partie de la tribu de Benjamin. Or, c'est une tribu de bandits et de violeurs. Quand on regarde l'histoire. La deuxième, c'est qu'il doit se poser la question, comment cet homme pourrait-il devenir roi alors qu'il n'est même pas capable de retrouver ses ânesses? Et le texte se poursuit, mais Samuel est un homme obéissant, donc il obéit à Dieu, il présente aux anciens du peuple d'Israël Samuel en leur disant, voici celui que Dieu a choisi pour être votre roi. Évidemment, ils ne sont pas contents du tout. Ils ne sont pas contents du tout parce que ça ne correspond absolument pas à l'image qu'ils se font de celui qui doit avoir le pouvoir. Alors Samuel dit, on va tirer au sort. Et le sort, qui est volonté divine, va effectivement désigner Saül et les anciens, à contre-cœur, vont accepter, mais ils retournent tous chez eux, Saül retrouve ses ânesses, retourne chez lui, et il ne semble dans un premier temps que, dans le fond, son titre de roi ne lui importe pas beaucoup, et que les anciens se passent très bien de la représentation politique, et puis ensuite l'histoire va se dérouler, comme très certainement vous le savez, avec ses hauts et avec ses bas. Mais cet épisode, pour moi, est significatif de la façon dont l'auteur à ce moment-là, et peut-être nous devons considérer le pouvoir, c'est-à-dire avec une certaine distance, et peut-être avec une certaine distance ironique. Mais ceci ne s'acquiert pas facilement. Ça c'est mon premier point de repère. Deuxième point de repère, il est bien évident que nous vivons dans une société à une époque qui nous met en relation avec le pouvoir totalement différemment de la relation que pouvaient avoir nos anciens, et encore plus à l'époque biblique, pour de multiples raisons. Nous sommes dans une société démocratique, à l'intérieur de laquelle il nous semble que chacun peut s'exprimer, et du moins peut exprimer son opinion à des moments clés, qui sont les moments des élections. Acte totalement impensable il y a 20 siècles ou 30 siècles. Donc lorsque l'on parle des textes bibliques et quand on se réfère à des textes bibliques pour essayer de comprendre comment nous devrions envisager la laïcité, le rapport au pouvoir politique et notre façon de gérer l'espace démocratique qui est à notre disposition, je pense qu'il faut garder ceci en mémoire. Ces textes ont été écrits dans un contexte qui est totalement différent de celui dans lequel nous vivons et nous nous exprimons. Ceci étant, d'un côté, il y avait ces quelques juges dont j'ai parlé, de l'autre côté, il y a cette approche ironique de la nomination du roi, donc de celui qui est le pouvoir, par un prophète et non pas par un prêtre, et c'est peut-être là aussi quelque chose d'important, il ne faut pas perdre ces deux éléments de vue lorsque l'on va arriver au texte qui vous ont été mentionnés tout à l'heure. Quel comportement doit-on avoir ou peut-on avoir vis-à-vis du pouvoir? J'ai pris deux versets assez particuliers, l'un de l'Exode, l'autre du Lévitique. Dans l'Exode, on lit le texte suivant, chapitre 22, verset 27. Elohim lotokalel venasib ammacha lotaor, qui est traduit habituellement par les 22-27. Les juges tu ne maudiras pas, et un chef de ton peuple tu ne le couvriras pas de malédiction. Première ambiguïté de ce texte, le premier mot, Elohim. Elohim en hébreu peut signifier les responsables juridiques, les juges, et même quelquefois les rois, mais signifie surtout, pour celui qui a l'oreille un peu habituée, Dieu. Et il est très intéressant de constater que lorsque les commentateurs de la tradition juive prennent ce verset, Elohim lotokalel, l'Elohim tu ne maudiras pas, ils passent tous de la traduction Dieu à la traduction juge. Pourquoi? Parce que ne pas maudire Dieu est une évidence. Ne pas blasphémer est une évidence. Si ne pas blasphémer est une évidence, pourquoi le dire? Cela n'est pas nécessaire dans ce verset, puisque cela a été dit ailleurs. En conséquence de quoi? Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'un autre sujet. Il ne s'agit pas de Dieu, mais de ceux qui ont la même capacité à leur échelle que celle que possède Dieu vis-à-vis des individus, c'est-à-dire comme lui est le juge suprême. Il s'agit donc de tous les juges, de ceux qui te jugent et qui ont capacité de justice sur toi. Eux, tu ne dois pas les maudire. « Venasib ammacha lotaor » et un chef de ton peuple, tu ne le couvriras pas de malédiction. C'est presque la même chose. Mais tu ne le couvriras pas de malédiction, j'ai pris la traduction de Meshonik, montre véritablement une aversion totale de celui qui critique pour critiquer, qui maudit pour maudire, qui est passé à ce stade où il est incapable de juger véritablement celui ou celle qui représente le pouvoir, et qui considère qu'à partir du moment où cela provient du pouvoir, cela est mauvais. Mais là, pourquoi ce verset? Quelle est la raison fondamentale de ce verset? Et il y a un commentateur qui avance l'hypothèse suivante. Tu ne dois pas maudire le juge, ni couvrir de malédiction le chef de ton peuple, parce qu'à ce moment-là, tu dénigres le politique. Et dénigrant le politique, tu vas lui ôter toute capacité d'ingérence dans la gestion de l'espace public, d'une part, et d'autre part, tu vas te déresponsabiliser. Puisque de toute façon, tout ce que fait le politique est mauvais, tu ne le couvriras pas de malédiction. Quelle est mon incidence sur ce politique? Elle est nulle et non avenue, donc je me désintéresse de la politique. Donc couvrir de malédiction le politique, le chef, a comme conséquence, d'après ce commentaire de Sforno, a comme conséquence l'incapacité pour le politique d'agir dans la sphère du bien public et la déresponsabilisation de l'individu qui, a priori, considère que tout ce qui vient de là-haut, du pouvoir, est mauvais, et donc ce n'est pas la peine de s'en occuper, d'où les abstentions, et c'est à cela en fait auquel je pensais. Ce sont tous ceux qui se disent, à quoi bon m'immiscer dans la politique, à quoi bon exprimer mon avis, puisque de toute façon, tout ce qui vient de là-haut est mauvais et ça ne sert strictement à rien, ma responsabilité et ma petite sphère privée, le reste, je m'en désintéresse. Le texte vient donc nous dire, il faut faire attention avec notre façon d'aborder le politique. Nous devons être responsables de ce politique et nous ne devons pas, a priori, avoir une attitude négative. Nous ne devons pas, en quelque sorte, diaboliser ceux qui font la politique de nos villes, de nos régions, de nos pays et peut-être même du monde. Il ne faut pas affaiblir l'autorité, et c'est la conséquence de la malédiction, car c'est aussi, lorsque l'on n'affaiblit pas cette autorité, c'est aussi nous donner la capacité, le moyen d'influer sur son comportement par l'expression démocratique à travers le mode électoral. Ceci est une première conséquence que l'on peut tirer de ce verset. Encore une fois, très certainement, l'auteur de ce verset n'avait pas en tête le suffrage universel que nous connaissons de nos jours. Mais néanmoins, pour nous qui le lisons aujourd'hui, je trouve que ce commentaire est intéressant. Mais alors, que devons-nous faire? Alors, il y a l'autre verset, c'est le pendant, Lévitique 19-17, qui dit « Lotisna et achicha bilvavecha, ocheach tochiach et amitecha, velotissa alav chet » que je traduis, toujours avec Méchonique, « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu reprocheras des reproches à ton compagnon, et tu ne porteras pas à cause de lui un égarement ou une erreur. » Première mise en garde, on ne doit pas haïr son frère dans son cœur. Or, son frère, ce n'est pas son frère de sang, c'est son frère au sens large. C'est son frère, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, si on le transférait dans le monde d'aujourd'hui, tu ne haïras pas ton compatriote ou ton concitoyen dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le haïr, c'est le rejeter de ton univers, c'est comme tout à l'heure, le diaboliser et donc considérer que tout ce qui vient de lui est négatif. Mais alors, je ne dois pas le haïr, et même s'il me déplaît, je dois essayer de comprendre ce qu'il fait. Pourquoi? Ocheach tochiach et amitecha, tu reprocheras ou tu réprimanderas avec des reproches ton compagnon. Nous avons le droit de la critique. Et ce texte vient nous dire, tu dois, lorsque tu penses que ton prochain, ton frère, celui de ton peuple, Amra, enfin Amitera, a commis une erreur, ayant le droit de la critique, tu as le devoir d'énoncer cette critique. Mais cette critique, et là on se réfère à la première partie du verset, ne doit pas être la conséquence d'un ressentiment. Elle doit être, cette critique, une critique objective et non subjective. Vous me direz que c'est extrêmement compliqué, mais on peut quand même essayer de faire abstraction de ses propres sentiments lorsque l'on considère l'action de l'autre. L'action de l'autre qui peut être l'action de son voisin, mais qui peut être aussi l'action de son représentant à la Chambre des députés, cantonale, et du représentant suprême de nos nations, c'est-à-dire le président de la République ou le chef d'État en général. Tu dois le lui reprocher en faisant très attention que tu ne dois pas faire de ce reproche un reproche subjectif, mais un reproche objectif. Parce que sinon, tu risques de verser dans la haine ou dans la, je reprends le terme de tout à l'heure, dans la diabolisation de l'autre. Donc, le rôle de l'individu, le rôle du citoyen, est d'énoncer une critique, la critique qu'il estime devoir énoncer vis-à-vis du pouvoir en place. Et la fin du verset dit, « Et tu ne porteras pas à cause de lui un égarement ou une erreur. » Alors on peut se dire, oui, mais c'est un peu facile. On nous demande de critiquer l'autre, non pas tellement pour qu'il change son mode de faire, mais dans le fond, pour ne pas porter la responsabilité. Maintenant, on peut voir aussi ce verset autrement. On peut dire, supposons que l'on se taise, c'est-à-dire que l'on n'énonce pas de réprimande ou de critique à l'égard de nos édiles. Eh bien, nous devenons co-responsables des conséquences de leurs actes. Ça, c'est une lecture. Deuxième lecture, parce que l'hébreu se prête un peu au jeu de mots, le texte dit « velotissa ala fret » et il a été traduit « et tu ne porteras pas de faute à cause de lui », mais on peut aussi traduire ce même texte par « et ainsi il ne commettra pas de faute ». Parce que « alav », ça peut être « à cause de lui » ou « sur lui ». C'est-à-dire que le rôle du citoyen, je le traduis en termes actuels, est d'énoncer les critiques vis-à-vis de ses édiles, des critiques objectives, raisonnées, et non pas subjectives et émotionnelles, parce que la conséquence est double. D'une part, en énonçant ses critiques, celui qui l'énonce se dégage en quelque sorte de la responsabilité d'avoir permis l'accomplissement d'une politique, la mise en place d'une politique, d'une part, et d'autre part, il aura peut-être une influence sur la décision du politique, même s'il pense que son influence sera minime. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce verset vient juste avant le verset fort connu « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que la façon d'aimer son prochain comme soi-même n'est pas de fermer les yeux sur ce que l'autre fait, mais est au contraire de garder une distance vis-à-vis de lui, par rapport à lui, et de faire de telle sorte que cette distance permette à chacun de vivre et de réagir à ce que l'autre fait. Et dans le fond, cette laïcité sacrée ou cette sacrée laïcité que je dégage de ces deux versets et puis des épisodes que je vous ai cités par avant, est celui de la responsabilité. Et dans le dernier verset, il n'est pas dit « tu réprimanderas et bene amera l'autre de ton peuple », il est dit « amitera ». Et « amitera » est une forme très particulière qui vient du mot « âme », peuple, mais le mot « âme », peuple, vient aussi de « im », avec. C'est-à-dire que le peuple est celui qui fait partie de ton peuple, le compagnon, et celui avec lequel on vit. La responsabilité et la solidarité vont de pair. Et c'est parce qu'il y a responsabilité et solidarité entre les citoyens que ceux-ci sont dans l'obligation d'énoncer les critiques quand ils pensent que ces critiques sont des critiques qui peuvent faire avancer les choses dans le bon sens. Quel est le bon sens? C'était évidemment extrêmement difficile de le déterminer soi-même. Mais c'est peut-être lorsque un groupe ou un ensemble de citoyens émet des critiques raisonnées, raisonnables et non émotionnelles sur une politique, que le bon sens peut émerger. Maintenant, ça, ce sont les textes bibliques qui nous montrent donc qu'il y a une solidarité, qu'il y a une responsabilité, que la critique est obligatoire, elle est nécessaire pour que l'autre réfléchisse et pour que soi même, en quelque sorte, on se dégage de la responsabilité, parce que ça aussi c'est important. Mais comment cela a-t-il été vécu à travers les siècles? Et je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps. Ça fait 24 minutes 35 secondes que je parle d'après l'appareil, mais très brièvement. Il est intéressant de noter que, dans un premier temps, il était bien évident et bien évidemment compris que la loi de la Torah, ce que l'on appelle aussi dans le jargon la halakha, c'est-à-dire le mode de faire juif comportait un pan politique, un pan juridique, un pan économique, un pan individuel, que toute la vie de l'individu et de la société était régie par la loi. Dans le Deutéronome, on nous dit, lorsque vous aurez nommé un roi, eh bien ce roi, voilà ce qu'il devra faire, voilà ce qu'il ne devra pas faire. Entre autres, il devra recopier un livre de la Torah pour s'en inspirer. Il ne devra pas avoir trop de femmes, il ne devra pas avoir trop de chevaux, c'est-à-dire que le train de vie de l'État doit être un train de vie modeste. Je ne vise personne. Et il est bien évident que la loi juive dans l'ancien temps, comme d'ailleurs toutes les lois religieuses, concernait tous les pans de l'activité de l'individu et tous les pans de l'activité de la société, à tous les niveaux. Or, nous avons, le peuple d'Israël a été confronté à une situation paradoxale, qui était celle de la minorité. Il a été déporté en Babylonie, et comment vivre en Babylonie, en accord avec la halakha, lorsque le pouvoir n'est pas le pouvoir de son peuple, mais le pouvoir d'une autre nation, et qui s'exprime selon des modes différents, et qui a des critères et des références qui ne sont pas les nôtres. Problème. Il a fallu du temps, parce qu'il a fallu attendre le troisième siècle de notre ère. Donc la première déportation a eu lieu en 586, avant l'ère moderne. Il a fallu la deuxième destruction du temple, et en fait l'abandon de tout espoir de retour à une autonomie politique, juridique, économique, sociale et religieuse, pour qu'une petite phrase soit énoncée par un rabbin. Et cette petite phrase, elle est la suivante. Dina de Malchuta Dina. La loi du royaume, c'est la loi. Ça fait déjà 17 siècles que ceci a été énoncé. Que veut dire cette phrase? Eh bien, il y a eu des problèmes parce que, avec la venue des Sassanides, qui, dans un premier temps, ont voulu normaliser toutes les lois et interdire toutes les lois qui n'étaient pas celles de l'État, puis ensuite un retour à une certaine autonomie cultuelle et culturelle. La tradition juive a bâti un certain rapport avec l'État. Un certain rapport que cette tradition devait absolument définir, parce qu'il fallait bien vivre en tant que juif dans un État qui ne l'était pas. Et donc, quel a été le mode de faire? Eh bien, ils ont dit, il y a deux types de lois, en quelque sorte. Il y a les lois pratiques, et il y a les lois, entre guillemets, religieuses et individuelles. Il y a ce que la tradition juive a appelé les dîners mammonon, c'est-à-dire les lois commerciale, financière, politique en général, et puis il y a la loi de l'individu. Et bien, tant que les dîners mamenot, c'est-à-dire les lois, disons, civiles, seront d'une part adoptées par la majorité de la population, d'autre part applicables à toute la population sans discrimination, et non contraire à une justice de base qui est l'égalité devant la loi de tous, ces lois devront être appliquées par les juifs vivant là où ils vivent. Ce sont les lois de l'État. Pourquoi on les a appelées les lois de l'argent? Parce que l'un des fondements d'un État, c'était la capacité de pouvoir taper monnaie, donc avoir de la monnaie, et si cette monnaie était à l'effigie du roi en général, mais acceptée par tous, eh bien elle devenait la monnaie de référence, et c'est pour ça qu'on les a appelées les lois des monnaies, en fait. Donc tant que la loi civile est une loi adoptée par la majorité, non contraire à la justice fondamentale, et appliquée sans discrimination pour tous les concitoyens, à cette époque encore il y avait les citoyens et les non-citoyens, mais appliquée de façon non discriminatoire, ces lois doivent être considérées comme contraignantes pour la communauté juive. Par contre, tout ce qui se réfère au domaine privé, à l'individu, aux lois de la filiation, aux lois du mariage, eh bien tout ceci, je ne donne que quelques exemples, doit être régi par la loi juive. Il y avait donc déjà à cette époque ce que l'on a appelé beaucoup plus tard la séparation de l'Église et de l'État. Mais d'une autre façon, c'est-à-dire au lieu que ce soit l'État qui renvoie l'Église, c'était la synagogue qui se demandait quelle est la validité des lois que je peux intégrer dans mon vécu quotidien qui proviennent de l'État. Et donc les critères étaient des critères extrêmement clairs. Ce qui fait que plus tard, comme on a toujours vécu la communauté juive, à l'écart de la communauté à l'intérieur de laquelle elle était, en minorité, il y avait des actes qui étaient passés à l'intérieur des communautés et des actes qui devaient se conformer à ce que l'État demandait, en particulier dans le domaine des impôts, en particulier dans le domaine de la gestion de l'espace. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'encore à cette époque, la juridiction était encore rendue à l'intérieur des communautés, non pas par un acte délibéré de mettre en doute la capacité des tribunaux de l'État de régler les problèmes internes de la communauté, mais en fait par un désir de régler les problèmes qui se posaient, qui pouvaient être d'ordre économique, d'héritage et autres, en fonction de la législation juive, mais par un accord préalable des personnes concernées. Et parfois, la communauté a considéré que la loi de l'État prévalait sur la loi juive. Je donne un exemple, qui est un exemple extrême. Dans la loi juive, on dit, si une personne n'a pas été mise en garde, que son acte pouvait entraîner son incarcération et peut-être même sa mise à mort, lorsque un assassinat est commis, et s'il n'y a pas eu des témoins qui peuvent affirmer avoir vu l'assassin assassiner une personne, eh bien cet assassin doit bénéficier de toutes les prudences nécessaires pour pouvoir, avant d'être condamné. Par exemple, une personne sort d'un bâtiment, un revolver fumant à la main, et on s'aperçoit qu'à l'intérieur du bâtiment, il y a un cadavre. Eh bien, selon la loi juive, il ne peut pas être considéré comme meurtrier à moins que l'on puisse prouver, etc., etc. Or, selon la loi de nos pays, il est bien évident qu'il va être accusé, enfin, il va être mis en accusation de meurtre, pour meurtre. Alors que dans la loi juive, il ne sera pas mis en accusation pour meurtre, à moins qu'il ne soit évidemment prouvé que la balle qui a été tirée par ce pistolet qui était fumant était bien celle qui a tué la personne et que cette balle provenait de ce pistolet-là. Donc il y a dans la loi juive, évidemment, c'est un cas de figure d'école, mais pour l'étude, pour le plaisir. La loi juive qui, évidemment, avait, dans un certain contexte, ne permet pas parfois d'aboutir à un résultat ou à une condamnation à laquelle la loi civile permet d'aboutir, parce que la loi civile a évolué avec le temps, alors que quelquefois la loi juive est restée fondée sur des principes anciens. Et bien dans ce cas-là, on préférera l'application de la loi civile à l'application de la loi juive, même si la communauté juive vit de façon enfermée, enfin de façon autarcique, tournée vers elle-même. C'est un exemple extrême qui d'ailleurs n'a jamais été posé, parce qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, partout où nous vivons, à moins que nous ne vivions dans des ghettos, mais ce n'est plus l'époque, Dieu merci, c'est la loi civile qui l'emporte sur la loi juive dans ces cas-là. Mais néanmoins, il a été intéressant, juste pour conclure, de se pencher sur cette question pour nous. La séparation de l'Église et de l'État, pour nous, la question de la laïcité ne se pose pas réellement, parce que nous avons vécu dans ce monde de la laïcité, d'une certaine façon, dans ce monde de la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir communautaire, depuis très longtemps, puisque nous étions astreints à certaines obligations par le pouvoir politique, étant une minorité, mais nous avions la capacité de gérer nos communautés selon nos règles, du fait que cela relevait de notre espace, et non pas de l'espace du politique. Alors aujourd'hui, quand quelquefois nous voyons ces débats, et vous en avez eu, puisque j'ai entendu que Jean Bobéro vous avait parlé de façon extrêmement brillante et éclairante de la laïcité à la française, lorsque nous entendons quelquefois ces débats, nous les trouvons un tout petit peu dépassés, ou du moins nous n'avons peut-être pas tout à fait la même approche, parce que nous avons une antériorité de la séparation de la synagogue et de l'État qui a été le fait de notre histoire et qui nous a permis de dire tout ce qui touche le pratique, en quelque sorte, c'est l'État, tout ce qui touche l'individu, c'est nous, tout ce qui touche la communauté, c'est nous aussi. Mais cette communauté doit vivre en fonction des règles et des lois que l'État émet, à la condition que ces lois et que ces règles soient adoptées par la majorité, soient conformes à la justice et à la liberté de chacun, et soient appliquées sans discrimination envers nous comme envers les autres. C'est ainsi que la laïcité juive peut considérer les choses avec relativement de tranquillité dans sa préhension du politique d'aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, j'attends vos questions. C'est les questions maintenant? Ou c'est le dessert? De questions? Madame?
Même si vous êtes tranquille, comme je viens de l'entendre, est-ce qu'il peut y avoir la même tranquillité, par exemple, dans l'État d'Israël?
Dans l'État d'Israël, c'est très compliqué dans l'État d'Israël. Ce n'est pas un État théocratique. Mais tout ce qui touche à l'individu a été régenté selon les règles qui prévalaient à l'époque, soit ottomane, soit anglaise. Comme il n'y a pas de constitution en Israël, il n'y a pas eu la question préalable. Il faut dire qu'il y avait d'autres questions vitales qui devaient être réglées, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Il n'y a pas eu cette réflexion de savoir comment va-t-on définir les relations entre l'État et le citoyen. Alors, à la création de l'État d'Israël, en quelque sorte, il y a eu la continuité de ce qui se passait avant. De la même façon que le monde musulman, le monde chrétien et le monde juif géraient l'espace qui lui était donné, le monde chrétien, le monde musulman et le monde juif a continué à le gérer de la même façon, avec les problèmes qui peuvent se poser. Parce que nous ne vivons plus, ni à l'époque de l'Empire ottoman, ni en Angleterre. Enfin, les Israéliens ne vivent pas dans un contexte totalement britannique. Il n'y a pas de reine. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui touche l'individu, le mariage, la filiation, le divorce, l'identité de l'individu au point de vue non pas de son identité nationale, mais de son identité cultuelle et culturelle, est régi par les autorités qui étaient en place en 1948. Ça pose des problèmes importants, moins pour les musulmans et pour les chrétiens que pour les juifs, parce qu'il y a eu il y avait un rabbinat qui était un rabbinat extrêmement traditionnaliste à cette époque et qui l'est resté aujourd'hui. Et dans le fond, ces structures sont restées les mêmes, c'est-à-dire sont restées des structures en quelque sorte presque du 19e siècle et quelquefois même du 18e siècle. Mais ça ne gêne pas le processus normal de l'État qui gère non seulement l'espace économique, mais l'espace juridique de la relation entre les gens, l'espace financier et bien entendu l'espace politique. À cela, peut-être qu'il y a juste un bémol, c'est le mode d'élection de l'État d'Israël fait que des minorités peuvent avoir quelquefois des influences qui dépassent et de loin leur importance dans l'État et peuvent bloquer des processus d'évolution. Et on le voit bien d'ailleurs en ce qui concerne aujourd'hui l'éventualité d'une réflexion sur la possibilité d'écrire une constitution. Parce que, par exemple, la majorité des représentants rabbiniques traditionnalistes s'opposent formellement à ce qu'une constitution soit écrite, parce qu'il est bien évident que dans cette constitution, la question de la relation entre l'État et le religieux devra être traité, et ils ne veulent pas du tout que ce soit remis en question, parce que le remettre en question, enfin, se poser cette question, c'est déjà pour eux perdre un certain pouvoir, qui est un pouvoir extrêmement pernicieux, parce que certaines règles n'ont pas évolué dans l'approche traditionnaliste du judaïsme, par exemple, les règles du divorce. Alors aujourd'hui, un couple israélien juif peut se séparer, peut vivre séparé, avec une convention de séparation qui a été entérinée par la justice de l'État d'Israël, spécifiant quels sont les droits de l'un, quels sont les droits de l'autre, et les devoirs de l'un et les devoirs de l'autre, sans que religieusement ils ne soient divorcés. Ce qui a comme conséquence que le mari, il peut faire à peu près ce qu'il veut, mais la femme, si elle se remarie par exemple, ou elle vit avec un autre homme, et qu'elle a un enfant qui naît de cette relation, cet enfant est un bâtard. Ce qui est très gênant dans la loi, dans l'approche traditionnaliste de la loi, ça c'est une des situations. L'autre situation, c'est qu'il y a des femmes qui aimeraient être séparées, et le mari le refuse, et les rabbins ne veulent pas utiliser les moyens que leur donne la halakha traditionnaliste pour obliger le mari à donner le guet, donc à donner le divorce à son ex-épouse, et la femme reste là, ce terme c'est aguna, elle est une ancre. C'est-à-dire qu'elle est fixée, et tant qu'on n'aura pas retiré, on ne l'aura pas tirée, eh bien, dans le fond, elle sera au fond de la mer. C'est un mot, d'ailleurs, qui est fort dans l'image qu'il représente. Alors, évidemment, ça pose des problèmes. Mais si vous allez en Israël, vous allez remarquer que la vie se déroule normalement, mais dans certains moments de l'existence, ou dans certains espaces, cela peut jouer un rôle extrêmement négatif. Ceci étant, l'État d'Israël est quand même un État dans lequel les citoyens s'expriment librement. C'est quand même une... Quand on lit la presse israélienne, on s'aperçoit que la presse française est presque timorée dans sa relation avec le pouvoir, et dans laquelle tous les citoyens votent librement tous les X temps, enfin ça dépend un peu de la vie des gouvernements, et dans lesquels, dans le fond, il y a une vie démocratique pleine et entière, qui quelquefois va à l'encontre de certaines normalités religieuses, parce qu'on a vu la Cour suprême être saisie de plusieurs demandes, et parfois, souvent même, donner tort aux édiles rabbiniques officiels et casser des situations, briser, enfin, libérer des personnes de situations dans lesquelles ils ne pouvaient pas l'être sans l'intervention de la Cour suprême, qui est totalement autonome et libre dans ses jugements. Donc, c'est vrai qu'il y a certains domaines dans lesquels, disons, on n'a pas atteint le niveau dans lequel nous vivons, mais que globalement, c'est un État démocratique, un État libre, qui vit sans constitution, avec quelques lois fondamentales, et quand on considère d'où il vient, avec les difficultés qu'il a, et les erreurs qu'il commet quelquefois, parce que cela aussi fait partie de la vie politique de tous les États, on se dit que pour la majorité, je dis bien pour la majorité des citoyens, les choses ne se passent pas si mal. Il y a quand même une distance entre la loi religieuse et la loi civile. Attendez. Qui veut parler? Il y a une derrière, monsieur, madame d'abord, et puis après on ira là-bas. Madame. Attendez, ici.
Dans le cas du divorce,
oui.
Si une femme se remarie, enfin, vit avec un homme et un enfant, c'est un bâtard. Vous n'avez pas dit ce qui se passait si l'homme se remarie.
L'homme ne pourrait pas se remarier, il pourra vivre avec une autre femme.
Oui, alors ça sera pas un bâtard.
Mais il ne sera pas un bâtard parce que la loi juive est comme ça. Mais dans les communautés modernistes ou évolutionnistes, on a annulé totalement l'idée de la bâtardise, on la considère comme nulle et non avenue, sachant pertinemment que dans certaines situations, des hommes et des femmes divorcent civilement, mais non religieusement, et quelquefois même sans y prêter attention, et donc l'on ne peut pas, et d'ailleurs ça nous semble être une contradiction, on ne peut pas faire porter la faute des parents sur l'enfant. Mais déjà, dans le Talmud, il y a eu une grande dispute. Des rabbins avaient voulu dresser la liste des bâtards à Jérusalem avant la chute du deuxième temple, et un rabbin leur a totalement interdit et leur a dit « Il n'y a pas de bâtards en Israël. » Point.
Je voulais encore
oui.
Est-ce que Elohim, j'ai toujours entendu dire que ça voulait dire « être venu du ciel » et vous avez donné un autre sens.
Ah, Elohim, oui, c'est... Elle, c'est une puissance ou c'est un puissant, et Elohim, c'est l'ensemble des puissances. Dieu est omnipuissant, enfin tout puissant, donc il est Elohim. Il y a une dame derrière vous. Alors, il y a une citoyenneté que l'on peut acquérir immédiatement en arrivant en Israël si on est juif. Et immédiatement, on acquiert la citoyenneté israélienne, c'est ce qu'on en appelle la loi du retour, qui a été votée, pensée et votée avec une référence, c'est la loi de Nuremberg. La Knesset et les pouvoirs politiques se sont dit, si aujourd'hui... Que Dieu veuille que cela ne soit pas. Si aujourd'hui il se passait ce qui s'est passé à partir de 1933 en Allemagne, l'État d'Israël étant l'État refuge pour les Juifs, il faudrait que ceux qui seraient, qui auraient été concernés par les lois de Nuremberg puissent trouver refuge chez nous, c'est-à-dire au moins un grand-parent juifs. Et donc la loi du retour a été énoncée à, en quelque sorte en miroir. Et a dit, celui qui a un grand-parent juif, s'il désire faire son alia, s'il désire venir en Israël, peut, s'il l'exprime, acquérir immédiatement la citoyenneté israélienne, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir un citoyen de notre État pour être protégé. Ça, c'est pour le juif. Pour le non-juif, c'est à peu près les mêmes dispositions que dans tous les États. Il faut y vivre un certain temps. Et il y a une loi de naturalisation et on devient citoyen israélien. Donc ce n'est pas réservé exclusivement aux juifs. Cela peut arriver que... Enfin, il se peut que des personnes non-juives venant en Israël, s'installant dans ce pays, se trouvent à l'aise et deviennent citoyens israéliens. Mais je ne connais pas exactement les règles et elles, comme elles diffèrent de chaque pays, je ne me suis jamais penché sur cette question.
Au départ, il y avait des Arabes qui n'ont pas eu la citoyenneté israélienne.
Les Arabes qui sont restés en Israël ont tous eu la citoyenneté israélienne.
Ils étaient un peu apatrides.
Non, madame, écoutez, ceux qui sont restés à l'intérieur des frontières d'Israël ont tous pu acquérir, s'ils le désiraient, la citoyenneté israélienne. Et aujourd'hui, il y a des citoyens israéliens qui sont musulmans ou chrétiens. On ne parle pas des Arabes à ce moment-là. Monsieur ?
Je voulais revenir sur la communauté juive avec un pouvoir non juif. En faisant un parallèle, en fait, en tant que chrétien, finalement, on est un peu dans la même situation d'une minorité par rapport à la société en général. Par contre, ce parallèle, je vais prendre un exemple très concret. Si j'apprends qu'un étranger est venu en France, fait une demande d'asile, et qu'on l'expulse avant la fin des procédures de demande d'asile, pour moi, ça ne rentre pas dans le cas des trois critères adoptés par la majorité, etc. Est-ce que c'est au contraire la justice de base? Alors qu'est-ce que je fais avec ça?
Ah si, ça rentre. Si la loi de l'État dit que lorsque l'on fait une demande de droit d'asile, la procédure est la suivante et que l'on doit, normalement, on devra attendre la fin de la procédure, puisqu'on indique une procédure. C'est donc que cette procédure seule peut donner la réponse, cette personne peut bénéficier du droit d'asile ou cette personne ne peut pas bénéficier du droit d'asile. Si cette personne est renvoyée avant que la procédure ait été menée jusqu'à son terme, et qu'une décision ait été prise, on peut dire que cette expulsion est contraire à la loi du pays. Oui, oui.
Alors comment j'agis par rapport à ça? Parce qu'en fait, je peux dire, c'est pas mon problème, je suis pas étranger, les problèmes de se débrouiller. Je peux dire, je vais voter autrement à la prochaine élection, mais ça ne changera rien, parce que je fais exprès que je prends ce créneau-là, parce qu'en fait, on sait bien que ça ne va pas changer grand-chose, même s'il y a des nuances. Je peux, en fait, essayer de décrédibiliser le pouvoir en le mettant et en les intéressant, etc. En fait, je n'étais pas une piste qui était proposée au début de l'exposer. Donc, comment faire, justice?
Alors, soit on peut faire opposition soi-même. Alors, je ne sais pas quelles sont les règles en France, puisque maintenant je vis de l'autre côté de la frontière, où il y a aussi ces problèmes qui se posent. Il y a deux possibilités. Soit la désobéissance civique, qui peut rentrer en ligne de compte. Je peux dire que le pouvoir n'a pas accompli, enfin la loi n'a pas été appliquée, donc moi je n'applique pas non plus, donc à l'envers. Mais d'autre part, j'ai toujours la possibilité, je dois pouvoir avoir cette possibilité que de déposer une plainte pour non-application de la loi. Je ne sais pas si c'est faisable. Ou au moins, réunir un certain nombre de personnes qui vont exprimer leur mécontentement, ou leur condamnation de telles pratiques. Alors évidemment, devant des actions menées par un État qui se fait et qui se déroule quelquefois sous 24 heures ou 48 heures, cela peut sembler très long. Malheureusement, nous sommes dans une situation dans laquelle aucun des actes n'est... seul ne peut emporter l'adhésion, disons, du principe. Il y a dans toutes les affaires de nos États et dans toute la vie il y a quelquefois des actes qui demandent du temps et pendant lesquels il peut y avoir des prises de position ou des actions menées par les autorités qui sont contraires à ce que l'on demande. Mais ça fait partie aussi de l'interaction qui quelquefois n'a pas une conséquence immédiate. Alors le choix est entre deux options, la désobéissance civique. Si je prends l'exemple suisse, dans le canton de Vaud, il y a eu une loi fédérale qui a donné certains critères quant à l'expulsion des étrangers. Et d'ailleurs, il y a un problème à l'heure actuelle qui est posé à propos du Kosovo. Le Kosovo maintenant étant un État indépendant. Que va-t-il se passer de tous ceux qui sont venus du Kosovo et qui ont demandé l'asile politique, puisque maintenant ils peuvent retourner chez eux, puisqu'ils ont un État indépendant. Les choses sont extrêmement complexes, on ne peut pas répondre oui, non. Mais donc le canton de Vaud s'est opposé à l'application de la loi fédérale et a fait de telle sorte de ralentir, puisque chaque canton est indépendant sur le plan de la police, sur le plan de la juridiction, enfin sur le plan de certaines juridictions, a fait de telle sorte de ralentir tous les processus, de telle sorte à ce que, au moins qu'il puisse y avoir une rediscussion concernant chaque personne concernée. Et lorsqu'il y a eu les votations, comme on dit, sur la loi d'asile en Suisse, nous avons une réunion dans notre communauté à laquelle participait le conseiller d'État qui était en charge de l'application de la nouvelle loi si elle passait, et elle est passée, et qui a dit la chose suivante, c'est quand même intéressant. Il a dit, même si cette loi est entérinée au niveau fédéral, et donc devient obligatoire au niveau cantonal, plus il y aura d'opposants dans notre canton, plus cela donnera de possibilités aux autorités administratives de notre canton de faire de telle sorte que cette loi ne soit pas appliquée dans notre canton. C'est intéressant parce que dans le fond, cela rejoignait cette idée de la responsabilité de l'individu. Il est bien évident qu'a priori, nous avons une possibilité d'influence que quelquefois nous perdons a posteriori parce qu'il y a des lois qui existent, qui ont été votées par la majorité, et qui sont, d'une certaine façon, non discriminatoires par rapport à l'ensemble des citoyens. Mais si nous pensons qu'elle est contraire aux fondamentaux de la justice, alors notre devoir, mais ça c'est difficile en France, mais c'est plus facile en Suisse, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une votation sur cette loi, puisqu'il y a le droit de référendum en Suisse que l'on n'a pas en France. Et c'est peut-être ce qui devrait être demandé en France, c'est une loi la possibilité que des citoyens placent l'État dans l'obligation d'organiser un référendum sur certains sujets à partir du moment où cette demande serait exprimée par X% de la population des votants. Mais a priori, notre rôle est évident, a posteriori, il devient quelquefois beaucoup plus difficile.
Eh bien, merci Rabbin François Garay. Nous ne lui ferons pas de réprimande et de reproches, au contraire, et on sent bien qu'on aurait pu l'écouter encore longtemps. Donc merci à lui de nous présenter ça aussi plaisamment. Maintenant, c'est le temps du dessert et du café. Et puis j'en profite pour vous rappeler la suite de la semaine thématique, bien sûr. Hein. Demain, c'est une nouvelle étude biblique avec l'imam Mohamed Ayari. Jeudi, étude biblique avec Bernard Bidot, qui est un théologien et qui est responsable de la communication au diocèse d'Annecy. Vendredi, c'est le pasteur de l'église pentecôtiste d'Annecy, pasteur Didier Arnaud, qui finira cette semaine d'études bibliques. Et il y aura un culte pour les familles dimanche à 10h. Alors, je savais que j'avais encore des choses à dire. Il y a donc une exposition en bas qui est ouverte aux heures d'ouverture du temple, hein, qui nous a été prêtée par la paroisse de Bourg-en-Bresse sur les rapports entre les protestants et la laïcité. Elle est facile, il y a beaucoup moins d'écritures que celles qu'on avait l'année dernière. Donc les rapports sont assez simples. Et puis je vous encourage à aller voir dans le temple l'illustration qui a été faite par notre ami Jean-Yves Gonzalez pour illustrer cette semaine thématique sur la sacrée laïcité. Voilà, merci. Bon dessert et à demain. Je rappelle aussi que toutes ces conférences ont été enregistrées et qu'elles seront sur le site de l'Église réformée d'Annecy. À partir du 11, après le 11 avril, puisque Norbert Prin, qui est notre webmaster, rentrera d'Israël à ce moment-là. Merci. Merci, Rabbi Garak.